la chronique beaujolaise de l'Académie. Une émission proposée par les académiciens Pierre Prunet et Jean-Pierre Chantin. Sur Calade, le 100.9 et www.radio-calade.fr. La chronique beaujolaise de l'Académie, c'est parti.
Bonjour, cette émission se déroule dans le cadre des chemins de traverse, le premier mardi de chaque mois à 18h30. Elle est rediffusée le samedi suivant, mais surtout elle précède une conférence de l'Académie de Villefranche du Beaujolais qui a lieu le deuxième samedi de chaque mois à 16h à l'Auditorium de Villefranche. Et cette émission traite du sujet, mais on va l'élargir. Alors ce mois-ci, la conférence du 8 février 2025 a pour titre « Le cimetière du Promenoir, 800 ans d'histoire ». Elle sera faite par Dorian Besson de la Maison des Mémoires en Beaujolais. Mais aujourd'hui, nous allons en profiter pour faire plus précisément un point plus global sur l'archéologie avec Cécile Batigne, qui est chercheuse au laboratoire ARAR, qui veut dire Saône, mais en l'occurrence, ça veut dire archéologie et archéométrie, et le laboratoire est à Lyon. Bonjour Madame Batigne.
Bonjour Monsieur.
Alors, un petit rappel d'abord, c'est jamais inutile, on peut rappeler ce qu'est l'archéologie.
Oui, on peut rappeler ce qu'est l'archéologie. L'archéologie, c'est une discipline qui contribue à écrire l'histoire. Depuis l'histoire des hommes, depuis les premiers hominines. Donc, comme d'autres disciplines qui concourent à écrire l'histoire, elle a des spécialités. Et l'archéologie est fondée sur l'étude des vestiges qui se trouvent enfouis dans le sol, contrairement à d'autres disciplines qui contribuent à écrire l'histoire, comme l'épigraphie, des aspects littéraires, les textes, par exemple, l'iconographie. Enfin, bon, il y a plusieurs manières d'entrer dans l'écriture de l'histoire, et l'archéologie en est une.
Alors, j'avais un collègue à Lyon, il travaillait en archéologie industrielle. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas que de l'archéologie ancienne et antique.
Bien sûr, oui.
Et l'archéométrie ?
L'archéométrie consiste à utiliser des méthodes de mesure, on va dire, qui habituellement étaient davantage appliquées pour des sciences dures ou expérimentales, disons, pour répondre à des questions d'archéologie. Donc dans mon laboratoire, par exemple, on va développer la datation grâce au carbone 14, que vous connaissez certainement. Et puis, on a aussi une autre branche qui est vraiment historique dans ce laboratoire, qui a été développée par Maurice Picon, le fondateur du laboratoire, qui consiste à déterminer l'origine géographique des céramiques, des poteries, en faisant leur analyse chimique, leur analyse élémentaire. Et en comparant donc des objets dont on ignore l'origine avec des ateliers de potiers qui ont été caractérisés de la même manière.
Donc il y a plusieurs types d'archéologie. Ce champ est immense. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire quelles sont les missions de l'archéologue ?
La mission de l'archéologue, c'est de préserver le passé, de mettre en valeur cette connaissance du passé. Ça consiste à veiller à l'application des lois qui veulent la loi de 42, 41, 42, la loi de Carcopino essentiellement, qui veut que tous les vestiges enfouis ne doivent pas être détruits. Donc, lorsqu'il y a une construction et qu'il y a destruction obligatoire, il faut que l'on renseigne ce qui est sous le sol. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire des trous sans s'informer ce que le sol contient. Et donc, il faut faire des approches diagnostiques avant de faire des travaux.
Et qu'est-ce qui déclenche justement cette opération de recherche, de fouille, ou quels sont les sites prévus ou déterminés dans le cadre des plans d'occupation des sols ou autres, quoi.
Alors, il y a deux choses, mais notre connaissance du territoire fait qu'il y a des zones très sensibles dans lesquelles on ne peut pas aménager, enfin, on ne peut pas faire d'aménagement, on ne peut pas faire de construction sans avoir fait un diagnostic archéologique, de la même manière que parfois on va faire un diagnostic environnemental, par exemple. Donc, il y a des zones de saisine dans lesquelles on ne peut pas intervenir sans faire un diagnostic archéologique. Ce diagnostic archéologique, il est fait exclusivement par l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, Et par la suite, il peut y avoir, si ce diagnostic est positif, des fouilles qui, de préventives.
Et en dehors des sites déjà repérés, il y a des surveillances
Il y a des surveillances, bien sûr, heureusement, oui, dans la mesure des moyens des services régionaux. Dans la mesure où il est interdit de détruire le patrimoine, les vestiges enfouis, à partir du moment où quelqu'un qui ferait un aménagement tomberait sur des vestiges, il doit déclarer ces vestiges au service régional de l'archéologie de son secteur.
Je pense que les municipalités qui ont peut-être un rôle.
Les municipalités, oui, il y a beaucoup de différents échelons. Les municipalités, les communautés de communes, il y a des services régionaux dans certaines municipalités. À Lyon, on a le plus vieux service archéologique municipal qui date des années 30. On a des services archéologiques dans les métropoles, dans des services départementaux aussi. Il y a plusieurs types de collectivités territoriales qui possèdent leurs services archéologiques, qui interviennent à ce moment-là.
Sur certains grands chantiers, effectivement, on évite de déclarer ce qu'on peut avoir découvert et camouflé peut-être un peu moins aujourd'hui.
Oui, j'espère. Mais vous voulez dire pas vu, pas pris, quoi.
Et on s'expose à des sanctions.
Évidemment, bien sûr.
Oui, bien sûr. C'est un jeu dangereux.
Oui, de la même manière que si vous ramassez des artefacts archéologiques sur un terrain et que vous le faites sans avoir demandé l'autorisation au propriétaire du terrain, ou encore pire, si vous utilisez un détecteur à métaux et vous faites des trous sans avoir demandé l'autorisation au préfet et au propriétaire, vous exposez à des sanctions, évidemment.
Il y a une légende qui dit que jusqu'à une certaine profondeur...
Pas du tout.
Parce que je sais que ça se raconte à droite à gauche, mais...
Pas du tout. Imaginez que nous comprenons l'enchaînement de l'histoire d'un site grâce à l'empilement des couches. À partir du moment où vous détectez un objet en métal et que vous faites un trou, vous avez beau avoir trouvé un objet intéressant, effectivement, sa position dans le site n'apporte plus rien, puisque vous avez détruit la succession des couches, vous avez détruit l'enchaînement historique. Donc cet objet n'a plus aucun intérêt, en fin de compte. Enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est pour dissuader les détecteuristes.
C'était les rumeurs qui disaient chez les chercheurs de trésors, vous savez.
Après, il n'est pas interdit de demander des autorisations au préfet et aux propriétaires des terrains.
Oui, dans les règles.
Voilà, il faut être dans les règles.
Donc l'archéologie, comme vous l'avez dit, c'est un complément de l'histoire. Même l'histoire a besoin de
l'archéologie. Bien sûr, c'est une des sources.
Jusque même des périodes, comme on le disait, très contemporaines.
Bien sûr, c'est une des sources qui nourrit l'histoire.
Notamment quand il n'y avait pas de texte, par exemple, c'est essentiel.
Bien sûr, oui.
Donc bien avant l'écriture, mais après aussi.
Oui, tout à fait. Mm-hmm.
Donc votre spécialité est axée sur les céramiques. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus, ce qu'on peut apprendre à partir justement de ces céramiques ?
Alors les céramiques sont importantes dans les sites archéologiques parce qu'à partir du moment où on produit de la céramique, à partir de l'époque néolithique, c'est un matériau qui est fabriqué par l'homme, c'est un objet qui est fabriqué par l'homme et qui n'est jamais détruit dans l'histoire. C'est-à-dire que contrairement aux matériaux périssables, ou à des matériaux qui sont réutilisés comme le métal et le verre qui sont refondus, la céramique, elle est laissée, et on la retrouve aujourd'hui telle qu'elle a été jetée à la poubelle autrefois. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune altération, à peine chimique d'ailleurs, dans sa composition. Donc on a tout intérêt à en tirer parti de cet artefact. Et il faut imaginer aussi que, la céramique est faite avec de l'argile, qui est un matériau très commun sur la surface de la Terre. L'argile, il y en a de partout. Heureusement, d'ailleurs, pour nous, parce que ça évite les pollutions profondes. Donc, on a fait énormément d'objets du quotidien, mais pas que, aussi pour le commerce, je pense aux amphores, avec l'argile cuite, donc avec la céramique. Donc, ces objets-là sont très divers, et peuvent donner beaucoup d'informations sur la vie d'autrefois. Alors, je parlais des amphores. Les amphores, par exemple, renseignent sur l'économie d'autrefois, parce qu'elles renseignent sur le transport des denrées d'une société, d'un territoire à un autre. Et puis, toutes les autres céramiques, mais essentiellement les céramiques qu'on utilisait à table, donc qui sont quand même teintées d'une valeur de distinction un petit peu. À table, je dis entre guillemets, on ne voit pas mes mains, mais je mets des guillemets à table. Pour l'époque romaine, c'est à relativiser, bien sûr. On va dire dans la salle à manger. Ces céramiques-là, elles sont soumises à des modes qui changent très vite. Et du coup, les formes de ces objets-là, je pense en particulier à la céramique dite sigillée, ces céramiques-là, la morphologie, si vous voulez, les modèles changent très vite. Et donc, à partir du moment où on arrive à les dater grâce à des éléments extérieurs, par exemple, on a trouvé une caisse de sigillée à Pompéi, pas encore déballée dans les niveaux 79 après, on sait que, que l'assemblage de toutes ces formes de sigillée gauloise sont contemporaines de 79, de l'éruption par exemple. Donc ça donne des éléments de datation. Et en fait, on utilise la céramique essentiellement pour dater les couches stratigraphiques. Ça, c'est vraiment le premier intérêt des céramiques.
Calade.
Ma radio.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Nous sommes toujours dans la chronique beaujolaise de l'Académie et aujourd'hui nous recevons Cécile Patigne et nous parlons d'archéologie. D'ailleurs, on parlait d'archéologie de manière générale et des céramiques de manière générale, mais vous avez une spécialité.
Oui, ma spécialité, ce sont les céramiques qui servent à faire la cuisine. Donc j'ai dit que les céramiques, pour les archéologues, c'est un outil de datation. Ça sert essentiellement à dater les couches stratigraphiques. Grâce à un procédé de comparaison et aussi parce que les céramiques romaines sont soumises donc à des modes qui changent très fréquemment. J'ai dit que ça sert aussi à connaître l'économie grâce au transport des denrées, au transport des objets, mais les céramiques dites culinaires qui servent à la cuisine, pour moi, c'est des céramiques qui m'ont beaucoup intéressée. Je m'en suis intéressée dès mon sujet de master et puis dans ma thèse de doctorat, parce que ça apporte deux informations qui me semblent importantes pour connaître mieux les hommes d'autrefois. D'une part, les techniques de réalisation, parce que ce sont des céramiques qui doivent résister à des contraintes thermiques essentiellement. Et comme vous l'avez constaté sans doute chez vous, tous les objets ne résistent pas à des passages sur le feu. Tous les verres ne résistent pas à des passages sur le feu.
On l'apprend à nos dépens, parfois.
Voilà, le pyrex, oui, le verre à vitre, non. Les céramiques, c'est pareil. Donc, voilà, un des deux intérêts, c'était les choix techniques réalisés par les potiers. Et l'autre intérêt, c'est à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on mange. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse dans cette céramique en particulier.
Et c'est à partir de ces outils, enfin, de ces ustensiles plutôt culinaires, que vous définissez les menus.
Avec l'aide des textes antiques, quand même. sans l'appellation des objets et sans les textes antiques, ce serait beaucoup plus difficile. Disons que je m'amuse à mettre en relation les données textuelles, les données littéraires, une des sources de l'histoire dont on parlait tout à l'heure, avec les objets trouvés en archéologie, en contexte stratigraphique, c'est-à-dire avec les objets replacés dans une succession chronologique, de manière à effectivement essayer de comprendre quels sont les objets qui ont servi à quel type de préparation alimentaire.
Et il y a des différences entre l'ustensile du peuple et celui de la bourgeoisie, par exemple. Et vous faites une distinction là-dessus ?
Non, il n'y a pas de différence là-dessus. La différence, elle ne se fait pas là. La différence, je pense qu'elle se fait davantage dans le fait que... Alors, on ne va pas parler de bourgeoisie, on va parler de peut-être une classe princière très riche. On a des grandes salles à manger, on invite beaucoup de monde, il faut des grosses gamelles.
Ouais.
Alors, en termes de forme, c'est assez monotone, en fin de compte. Hein, on a un peu toujours les mêmes formes qu'on se trouve dans un établissement modeste ou dans une grande domus urbaine. Ce qui va changer, je pense, c'est la capacité à nourrir de nombreuses personnes ou pas. Et autre chose, ce qui va peut-être changer, je parle de la cuisine, bien sûr, on est en cuisine, donc ce n'est pas visible, il n'y a pas d'élément de distinction intéressant à ce niveau-là pour le propriétaire. Mais en cuisine, ce qui va faire quand même la différence, c'est peut-être le fait de posséder des marmites en métal, des objets en métal. Et c'est peut-être là que va se faire la différence de moyens entre les pauvres et les riches.
Oui, est-ce que les différences de matériaux elles sont plutôt dans ce qui est servi à table ou ce qui est montré à tout le monde? C'est
oui.
Là où il peut y avoir...
Oui. Dans les mets, dans l'alimentation, il peut y avoir des différences, bien sûr.
Oui, l'accès. Des dorures, ou si on veut un peu.
Après, à la salle à manger, oui, bien sûr. Voilà. Hein, on connaît la salle à manger de Néron qui tourne, et puis on voit bien le festin de Trimalcion avec des pétales, des parfums de roses qui sont jetés sur les convives. Enfin bon.
Oui. Donc, c'est pas la peine de montrer ça dans la cuisine, mais dans la salle à manger, il faut un peu. Montrer qu'on a les moyens.
C'est ça.
Mais finalement, ça peut changer. Les Japonais ou les Chinois ont repris le même système de Néron, de la table qui tourne.
Oui, c'est ça.
Et si on revient un peu chez nous, est-ce qu'on a des types de céramique dans notre région un peu particulier, région au sens large? Et puis si en plus ça peut être dans le Beaujolais, c'est encore mieux.
Alors, il y a deux grandes familles, on va dire. Il y a les céramiques qui concernent, j'ai un petit peu dit, le monde de la consommation. Et là, on a des céramiques qui sont très communes d'une région à l'autre parce que ce sont de très grands ateliers qui produisent ces sigillés. Je vais parler des sigillés, hein, ces céramiques de consommation. Ce sont des objets qui, pour être fabriqués, sont très coûteuses à la fabrication. Il faut imaginer les grands ateliers de Lezou ou de Millau qui faisaient des cuissons d'une semaine avec 40 000 pièces d'un coup. C'est des productions extrêmement coûteuses. Et pour pouvoir être rentabilisé, ce coût de production, il repose sur une diffusion très, très large et très organisée. Ce qui fait que la moitié de la Gaule a les mêmes sigillés au même moment. C'est pas là on n'aura pas des différences entre Lyon et je sais pas moi Annecy et voilà on a un peu tous les mêmes céramiques à table on va dire dans le triclinium dans la salle à manger. Les différences elles se font dans les céramiques en cuisine puisque là ce ne sont pas les mêmes ateliers qui approvisionnent. Et oui, là se jouent des différences qui relèvent de l'appartenance culturelle des potiers et des consommateurs. Et donc oui, en fait, on remarque que non seulement les marmites n'ont pas les mêmes formes, on n'a pas les mêmes bords, par exemple, si vous voulez. Et puis il y a des régions où on va avoir plus de marmites et moins de plats à cuire. Parce que pour faire la cuisine, on a essentiellement trois objets, trois récipients. Le pot à cuire, qui est un peu universel. La marmite, qui est un objet un petit peu... replet, un peu rond. Et puis le plat à cuire qui est bas, une sorte de plat pizza, si vous voulez. Bon, voilà. Donc on va avoir des différences dans la morphologie des objets, puisqu'il peut y avoir des ateliers très régulièrement dispersés sur le territoire qui vont avoir leur répertoire, par exemple. Donc on va avoir des différences dans la morphologie des objets, mais aussi dans la manière d'utiliser ces objets.
Le Beaujolais n'est pas connu pour sa richesse archéologique gallo-romaine. Quoique, est-ce qu'il y aurait des endroits un peu précis où il y aurait pu y avoir des potiers, ou peut-être qu'il y a eu des potiers?
Oui, il y a des potiers. On a trouvé des ateliers de potiers. Déjà, tout simplement à Ludna, à Saint-Georges-de-Renas, il y a un atelier. Ça, Jean-Claude Béal l'avait publié dans son livre sur Anse et Saint-Georges-de-Renas. Et puis il y a des ateliers de potiers connus un peu plus haut à la chapelle de Guinchet. Voilà, régulièrement on en a trouvé, mais c'est fort probable qu'il y en ait un petit peu de partout. On en a toujours besoin de la poterie. Et il y a des sites partout dans le Beaujolais, donc on a besoin de poterie partout, quoi.
Il y a des lieux dits d'ailleurs, les potières, les potiers, etc.
Saint-Étienne-les-Aulières.
Voilà.
Pourquoi Saint-Étienne-les-Aulières?
Les Aulières, ça vient de houle, peau, houlière. Donc en général, quand il y a ce toponyme houlière, on peut imaginer qu'il y a eu des ateliers de production, des ateliers de potiers.
Les gens pensent qu'il y avait des mines, mais ils confondent avec houlière.
Alors, je n'ai pas d'idée sur cette question précise.
Mais ils font la faute d'orthographe. Ils mettent pas houlière. C'est pour ça que...
Alors, ça serait hola, alors... Le hola, la cruche,
le pot à cuire.
Le pot à cuire, c'est ça.
Lola, la... Donc A-U-L-A ou O-2-L-A. A-U-L-A, c'est plus ancien comme orthographe. Puis houle, à l'époque oui. médiévale, et puis même c'est utilisé dans le français courant, un loul.
Bon, un occitan.
Exactement, voilà. Et puis, voilà, aurait donné Olière. Ouais.
Donc, tous ces dépotoirs, si j'ose dire, aujourd'hui, avec le recyclage, on va faire disparaître un certain nombre de choses.
Et pas la poterie, elle ne se recycle pas. La poterie, elle est... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On la concasse et on la met dans les ornières des chemins, par exemple, pour remblayer. Mais nous, ça fait notre bonheur, parce qu'en fait, rien ne disparaît. On récupère tout. Alors que le verre, le métal est recyclé, et tous les matériaux périssables dans nos contrées ne sont pas conservés. On a très peu de tissus, on a très peu d'osiers, on a très peu de vanneries, on a très peu d'objets en matériaux périssables, en bois.
Et alors, parmi vos multiples activités, vous avez même participé à l'organisation d'un repas romain.
Plusieurs, même.
Et plusieurs,
oui,
même.
Oui,
est-ce
je m'amuse.
Est-ce que vous pouvez nous le décrire, un repas romain?
Oui, c'était... Alors, j'ai participé à un repas romain chez un ami qui ouvre son laboratoire pour en faire un restaurant une fois par mois. C'est Fred Valette, de la cuisine de Fred au Péréon. Et on avait décidé de proposer au public un repas romain avec une conférence pendant le repas. Donc j'avais invité aussi pour cela mon collègue Christophe Caillot qui travaillait au musée de Saint-Romain-en-Galles et qui travaille sur le vin. Et nous avions, j'avais avec Frédéric Valette conçu un menu sur la base de textes. Alors évidemment surtout sur la base du livre qui a été attribué à Apicius. Même si c'est un livre composite, on va dire, attribué à Apicius, d'Ere Coquinaria. Donc on avait élaboré ces menus en étant le plus fidèle possible aux recettes, mais en les adaptant de manière... Alors, non pas en adaptant les ingrédients, car on a conservé exactement tout ce qui était dit, mais on n'a pas d'indication de quantité. Donc on a adapté les quantités des ingrédients pour que ça soit... plaisant pour nous, pour nos papilles. Et puis, voilà, on émaillait ce repas d'explications. C'était une sorte de dîner-conférence avec deux conférenciers, quoi.
Bah, vous nous faites regretter de ne pas faire ça à l'Académie, mais peut-être qu'un jour, on fera un repas romain ou gaulois, pourquoi pas.
Pourquoi pas, si vous me le demandez.
Oui, à réfléchir. En tout cas, merci.
À Saint-Romain-en-Galles, il y a eu, au moins mois de septembre, octobre, je ne sais pas quoi, là. Il y avait des repas, effectivement, j'ai assisté à l'un, moi. La cuisine est quand même particulière.
Ah, mais en fait, il y a une grande part de liberté dans la mesure où je vous disais qu'il n'y a pas d'indication sur les quantités.
Eh bien, merci Cécile Battier. Rendez-vous le samedi 8 février à 16h à l'auditorium pour prolonger cette émission avec la conférence proposée par Dorian Besson consacrée au cimetière du Promenoir, encore de l'archéologie, 800 ans d'histoire. Vous pouvez nous retrouver pour nos actualités sur notre page Facebook et notre site internet académie-villefranche.fr. Merci beaucoup.
Merci.
La chronique beaujolaise de l'Académie. Une émission proposée par les académiciens Pierre Prunet et Jean-Pierre Chantin. Sur Calade, le 100.9 et www.radio-calade.fr.